Juste avant de commencer, j'aimerais préciser une chose par rapport à ce pique-nique pour ne pas être en erreur. Vous allez recevoir, chers amis, un plan pour indiquer le chemin et où vous voyez l'image d'une voiture, c'est là où vous pouvez garer. Okay? Quand vous voyez l'image de la voiture, il y a deux flèches, l'une à gauche, l'autre à droite. Pour les personnes qui ne veulent pas descendre une colline avec une pente quand même non négligeable, vous devez vous garer là où il y a la flèche. Est-ce que je vais me tromper ici? Vers la droite. Okay? Vous suivez la flèche vers la droite et puis tout va bien. Okay? Si vous vous garez là où il y a la flèche à gauche, vous devez descendre une pente considérable. Ça va? Donc maintenant, ne me blâmez plus quand vous êtes face à une immense pente et vous dites qu'est-ce que je fais là? Okay? Ce serait parce que vous n'avez pas suivi les instructions. Je deviens comme un pharisien, n'est-ce pas? Il faut suivre la loi. Donc, on arrivera à ça dans quelques instants. Chers amis, on va prier ensemble, je pense, avant d'aller plus loin. Que le Seigneur nous aide. Je sais, il fait lourd, n'est-ce pas, aujourd'hui? Même s'il fait moins chaud, j'ai l'impression d'être, pour la première fois de ma vie, d'avoir envie de prêcher en short. Donc, peut-être à mi-chemin, je vais changer avec Pierre-Louis et je vais mettre ses shorts. Il fait lourd. Donc, courage. S'il vous faut de l'eau, levez la main et Evelyne va vous donner un verre d'eau. Okay, je comprends que ce n'est pas évident. Est-ce que la porte est ouverte? Oui, effectivement. Je ne sais pas pourquoi il est tellement lourd. Donc, courage. Si vous voyez quelqu'un déjà endormi, un coup de... ça va aider. Okay? On y va collectivement pour comprendre la parole de Dieu. On y va? Prions ensemble. Merci Seigneur que ta parole est lumière et vérité. Et merci que lorsque nous venons à Christ, lorsque nous nous soumettons à lui et à sa parole, nous trouvons ce qui est bon pour notre âme. Donc, sois avec nous aujourd'hui, Seigneur, garde-nous des dangers de se croire en ta présence à travers nos rites et nos pratiques et nos œuvres religieuses. Donne-nous plutôt d'être un peuple qui se réjouit en Jésus-Christ. Nous te le demandons en son nom. Amen. Amen. Alors, de temps en temps, j'imagine, vous entendez des propos comme ceci. J'avoue, moi, j'entends ceci régulièrement. La dernière fois, je pense que c'était la semaine dernière. Pas besoin de venir à l'église pour être un chrétien. Vrai ou faux? J'ai ma foi, mais ma foi chrétienne, mais cela ne nécessite pas un engagement forcément dans l'église locale. Ou peut-être vous avez entendu la version un peu plus large, qui est au fond plus ou moins la même. Je n'ai pas besoin d'être religieux pour être bon. Autrefois, c'est vrai, on aurait insisté sur le cadre, sur les règles nécessaires pour faire le bien, pour être bon. Mais aujourd'hui, surtout en Occident, on réclame l'amour au-dessus de ces règles, de ce cadre. L'amour passe outre aux règles. Et ça, je pense, c'est le message de la plupart des films que nous voyons sur nos écrans aujourd'hui, des séries. Moi, j'ai vu récemment une adaptation sur la BBC des Misérables de Victor Hugo. C'est une histoire bien connue. Nous l'avons citée plusieurs fois, je pense, ici dans cette église. L'histoire tourne autour du contraste qu'il y a entre deux hommes, essentiellement. Jean Valjean, l'ancien forçat, lui, bénéficiait de la grâce d'un évêque à son sujet. Et en face de lui, il y a un légalisme d'inspecteur Javert qui, lui, veut suivre la loi. Il faut respecter les lois. Et à la fin du livre, mais aussi de cette série à la télé que j'ai vue, Jean Valjean se désigne pour exécuter Javert, mais au lieu de faire cela, il libère lui-même Javert. Et lui, Javert, il ne peut pas croire que Jean Valjean lui a fait grâce. La miséricorde ne fait pas partie de sa loi et il ne peut pas comprendre la compassion de Jean Valjean à son sujet. quand c'est au tour donc de Javert plus tard de libérer Valjean, son tourment à l'intérieur de lui-même est tel qu'il ne peut pas le supporter et il se tue. Dans le monde de Victor Hugo, la miséricorde ou la compassion, en effet, emporte sur le légalisme. L'égalisme, c'est la dévotion malsaine à la loi, quoi qu'il en soit. Et ça, c'est une leçon que Jean Valjean, lui, il illustre. Mais cela, ça échappe, ce pauvre Javert. Mais peut-être pour vous, Victor Hugo, Les Misérables, c'est un peu vieux. Et donc, pour certains, vous préférez Harry Potter. Dans la famille Orange, on est en train de revoir certain nombre de ces films. Je sais, parfois, il y a débat par rapport aux chrétiens et Harry Potter. Alors, on met ça à côté pour quelques instants, juste pour une illustration, si vous permettez. Là, dans le cinquième livre, il y a un prof terrible qui s'appelle Dolores Ombrage. C'est la nouvelle enseignante de défense contre les forces de mal. Et elle est particulièrement, si vous avez l'image de cette femme habillée en rose, stricte et impose des décrets après des décrets, surtout des élèves. Obsédée par sa vision de la discipline, elle a une loyauté aveugle aux règles imposées par le ministre. Elle crie à la fin du film, lorsque tout s'écroule autour d'elle, et c'est assez rigolo, « Je dois avoir de l'ordre! C'est ça ce qu'il me faut !» Et il y a du plaisir pour nous, les spectateurs de ce genre, les lecteurs de ce genre de récits, de voir ceux qui sont attachés aux règles terminer mal. On dit « oui », parce que l'amour prime au-dessus. Et ce sentiment est derrière beaucoup, beaucoup d'évolution des mœurs de notre société. Ce que nous dirons aujourd'hui au sujet de la sexualité, au sujet du divorce, au sujet de l'adultère, au sujet même du genre, homme et femme, reflète cette quête du bonheur et de joie en dehors des consignes externes imposées par les autres. Et il se peut ce matin, lorsque nous avons lu l'échange entre Jésus et les pharisiens dans Matthieu chapitre 12, que nous réclamons aussi Jésus dans ce débat, l'amour, la miséricorde, au-dessus de la loi. Car ici, Jésus, il confond les pharisiens avec leurs règles, avec leur religion, avec leur rite. Il les condamne de mettre la loi au-dessus de la compassion. Mais dans son cas, et c'est différent, ce n'est pas parce qu'il est contre la loi, mais plutôt parce que Jésus, lui, il accomplit la loi de l'Ancien Testament, la loi de Dieu qui nous mène à la miséricorde de Dieu. Une miséricorde, comme nous l'avons vu dans cette magnifique illustration donnée par les sagesse, qui enlève le lourd fardeau de la religion, de devoir tout faire pour gagner la faveur, l'approbation de Dieu. Jésus disait, dans les versets qui précèdent nos versets de ce matin, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus nous offre le repos. Mais il y a quand même un joug à porter, n'est-ce pas? Venir à Jésus n'implique pas de sortir de tout cadre, de dire c'est l'amour avant tout, peu importe. Non, venir à Jésus implique de recevoir ses instructions. Nous sommes décrits ailleurs dans le Nouveau Testament, les chrétiens, comme étant des esclaves de Jésus-Christ. Pas libres à tout point de vue, libres par rapport au péché, ça oui, mais néanmoins sous l'instruction de Jésus-Christ. Mais ces instructions ne sont pas lourdes à porter, car si nous venons à Jésus, nous trouvons du repos, nous recevons le pardon pour nos péchés, nous trouvons une espérance quant à notre avenir, nous trouvons même une communion des saints grâce à ce que Jésus-Christ a effectué en nous par son esprit. Et les deux épisodes de notre texte de ce matin, chapitre 12, confirment cette trajectoire-là, que Jésus accomplit la loi. Mais ces épisodes confirment aussi que Jésus confond la religion avec ses règles, avec sa fierté, pour obtenir la faveur de la part de Dieu. Non pas que la loi en soi n'est pas bonne, mais que la loi de Dieu prévoit la miséricorde à son centre, le repos que nous puissions connaître avec Dieu. Et Matthieu, il fait exprès de mettre l'épisode du chapitre 12 après celui de la fin du chapitre 11. Car en ce temps-là, dit-il tout au début du chapitre 12, il veut qu'on voit le contraste avec ce qu'il vient de dire. Jésus offre du repos, fin du chapitre 11, et ensuite, épisode suivant, Jésus traverse des champs de blé un jour de sabbat. Ça fait lien entre le repos et sabbat. Et c'est fait exprès pour qu'on voit à quel point c'est frustrant, c'est déplorable d'ailleurs, la démarche de la part des pharisiens, ces personnes qui prenaient la loi au sérieux, qui était très respectable à l'époque, ces pharisiens qui parlent au verset 2. Si vous voulez arriver au verset 2 du chapitre 12, après avoir lu la fin du chapitre 11, c'est un peu comme l'expérience d'avoir fait un exploit passionnant, audacieux ou demandeur dans votre vie. Je ne sais pas la dernière fois que vous avez fait quelque chose de remarquable, vous avez monter une montagne, vous avez fait des voyages en Indonésie, etc. Je n'en sais rien. Vous avez peut-être bien réussi vos examens tout récemment. Vous venez d'avoir un enfant pour certains. Vous avez eu une grosse fête de famille pour une telle ou telle raison. Mais le lendemain, après le sommet, le lendemain, on doit de nouveau se mettre à faire une tâche banale. Comme retourner au travail habituel, comme faire la vaisselle humblement dans le foyer. Ici, on a eu le crescendo, c'était magnifique, fin du chapitre 11. Et puis on redescend par terre, chapitre 12, verset 2. Car que disent les pharisiens, les disciples, lorsque les disciples de Jésus, quand eux, ils avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger? J'avais demandé par WhatsApp à Samuel de m'arracher quelques épis pour que je puisse vous montrer ça, parce que j'en avais pas trouvé, tellement je suis nul dans tout cela. J'en ai arraché avec Nelly, ma fille, hier, en mon moto, en pensant que c'était des épis, mais en fait non, c'était juste un type de gazon, et d'où mon épouse devait m'aider. Mais c'est pas ça, donc j'en ai pas trouvé pour vous. Donc eux, ils arrachent ça, ils font le nécessaire dans la main, pour ça il y a quelques grains et ils mangent. Je pense que c'est ça ce qu'ils font, hein. Oui, Samuel me dit c'est bon, ok, très bien, et ils mangent. Et verset 2, voyons cela, les pharisiens lui dirent, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Ben, ces pharisiens, ils n'ont rien compris. Car si on comprend que Jésus offre du repos, fin du chapitre 11, le repos dans le sabbat préfiguré, car le sabbat, nous avons lu en Genèse, c'était le septième jour de la création. Dieu et l'homme jouissaient de la création de Dieu, le paradis dans lequel l'homme marchait en bonne relation avec son Dieu, en harmonie dans la création, en paix avec les hommes. Dieu crée le sabbat, entre dans son repos le septième jour. Mais eux, les pharisiens, ils sont toujours accrochés à une autre vision du sabbat, une obéissance légaliste à la lettre de beaucoup de petites règles qu'ils avaient construites autour du sabbat afin de ne pas courir le danger à leurs yeux d'enfreindre cette loi du sabbat. Ce que font les disciples, ce n'est pas forcément du travail d'après la loi de Moïse. Le sabbat, dans la loi de Moïse, c'était un jour de repos. Il ne fallait pas travailler. Mais c'est, qui sait aujourd'hui si Carrefour est fermé le dimanche? Ce Carrefour ici, est-ce que c'est fermé, oui ou non? Levez la main si vous pensez que c'est fermé. OK. Si je demandais la question à l'époque, est-ce que les magasins étaient fermés le sabbat juif? Tout le monde dirait, bien sûr, samedi, pour les juifs, c'était le jour de repos où il ne fallait pas travailler. Okay? Donc c'était clair, c'était compris, c'était ce jour de repos. Mais eux, ce qu'ils font, ce n'est pas forcément du travail, d'après la loi de Moïse. Mais cette pratique de ce qu'eux, ils ont fait, c'était néanmoins interdite selon les règles supplémentaires. Il y en avait plus de 600 règles, dont une bonne trentaine concernaient des précisions sur ce qui constituait le travail pour un juif à l'époque. Les disciples avaient faim. Et donc, en traversant les champs, ils arrachent des épis. C'est pas du vol, ça. J'avais un peu peur en demandant ça à Samuel, qui leur me dit, mais non, je peux pas faire ça parce que ça serait de voler. À l'époque, c'était pas du vol, c'était permis, cela. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils faisaient cela le jour du sabbat. Les pharisiens respectaient ces lois supplémentaires. Ils étaient sérieux dans leurs efforts de faire le bien. Ils voulaient avoir un bilan juste. En ce qui concerne la loi, comme ça, ils auraient pu avoir une assurance qu'ils étaient en bonne relation avec Dieu. J'ai un ami qui est rendu visite récemment à Jérusalem. Et il se trouvait apparemment dans un hôtel en ville. Et à l'hôtel, il y avait deux ascenseurs. Peut-être que vous avez connu ça. L'un, un ascenseur normal, vous indiquez, vous appuyez sur l'étage que vous voulez atteindre. Cinquième, je pousse le bouton et puis c'est bon. Mais l'autre à côté, où on ne doit toucher aucun bouton, mais l'ascenseur arrête automatiquement à chaque étage. Et cet ascenseur-là, c'est un ascenseur du sabbat. Parce que rien que le fait de toucher le bouton, c'est du travail. Et il ne faut pas le faire. Génial, dans un sens, comme invention, je dirais. Bravo dans un sens, mais dans un autre sens, point de vue, compréhension biblique du sabbat, c'est une catastrophe. Les pharisiens auraient été dans cet ascenseur-là, sans doute. Sans aucun doute, ils auraient trouvé cela scandaleux de prendre l'autre ascenseur. Il y a les deux ascenseurs le jour du sabbat. Et Rabbi va dans celui-là où il ne faut pas aller. Quelle est l'attitude qu'ils vont avoir par rapport à Rabbi? Mais ça ne va pas. Tu ne respectes pas les lois de Dieu. Tu ne peux pas être en paix par rapport à ta relation avec Dieu. Les règles, alors, mettaient en avant leur propre justice. Nous avons choisi le bon ascenseur. Nous n'avons pas donc brisé la loi de Dieu. Et du coup, inévitablement, il y a une certaine justice qu'ils ont propre à eux, à leurs yeux, car ils pouvaient poursuivre ces règles. Mais les disciples de Jésus ne respectaient pas ces règles. Et donc, par la suite, c'est ce que nous allons voir ensemble, Jésus lance un défi à ces gens religieux. Peut-être tout d'abord, avant de voir ce défi, vous vous dites, mais moi, je ne suis pas vraiment religieux. Moi, je ne suis pas aussi certain que ça soit le cas, même si vous dites, moi, je ne suis pas vraiment ici ce matin parce que je fréquente cette église, je suis un peu en visite, c'est sympa d'être là, mais ce n'est pas moi le religieux. Est-ce vraiment le cas? Le désir, chers amis, de se trouver du bon côté du débat juste-injuste continue à battre dans tous les cœurs humains. Se trouver sur le mauvais côté aujourd'hui du débat changement climatique provoque de l'opprobre de la part des citoyens respectables. Le scepticisme scientifique à ce sujet n'est plus admissible. Dans le domaine public, il suffit de demander des précisions à Samuel, il en parlera. Telle est la peur d'être du mauvais côté de ce débat qu'on court l'un après l'autre pour donner un doctorat honorifique à une fille de 16 ans avec aucune expérience ni connaissance dans le domaine. Mais on doit dire « je like » cette proposition. Parce que ça me met du bon côté du débat, avec les justes, avec ceux qui disent « oui, il faut que je fasse le nécessaire pour que je sois considéré par l'ensemble quelqu'un de respectable, quelqu'un de bien. » Non seulement les bien-penseurs acclament cela, ils interdisent tout discours qui va à l'encontre. Je pense qu'en Europe, nous sommes super sensibles à liker ce qui convient aux mœurs actuelles. Apparemment, on appelle ça aujourd'hui du virtue signaling. Est-ce que vous avez entendu parler de cela? C'est une action qui flatte la vanité de la personne qui se sent narcissiquement renforcée par le fait de montrer à ses contacts sur des réseaux sociaux qu'elle est moralement supérieure. La religion n'est pas encore à jour dans notre société. Si, si, si. L'une des raisons je suis surpris, en quelque sorte, par ce qui se passe au Royaume-Uni, vu de savoir que moi, je suis britannique, mais la réaction, qu'on soit pour ou contre ces questions du Brexit, révèle un côté presque religieux de la part des uns et des autres. De se dire, je ne dis pas, moi, en fait, je n'ai pas voté, si vous demandez si j'ai voté. Mais je ne vais pas vous dire comment j'aurais voté. Ce n'est pas ma place de dire de telles choses ici à l'Église. Mais je connais certaines personnes qui ont voté sortir, pour qui ils sont devenus plus acceptables dans le cercle dans lequel ils étaient. Parce que le bon côté dans ce débat, d'après la plupart des Européens, c'est d'être dans l'Union Européenne. Peut-être ils ont raison, je ne rentre pas dans le débat, mais c'est juste intéressant de savoir, on fait un déclic là-dessus. Wow, vous avez voté sortir? Un peu de distance. L'autre ascenseur, s'il vous plaît. Okay? Parce que ceux qui sont vraiment sur le bon côté sont avec moi. La religion reste dans notre société, chers amis. L'esprit des pharisiens donc, continue à battre dans le cœur humain. Jésus lance un défi à ces gens religieux, car au lieu de faire un débat sur la légitimité de ces règles par rapport à la loi de Dieu, que fait-il? Il confond les pharisiens avec une compréhension des Écritures même que eux, ils sont censés à connaître. Il le fait afin de les pousser à voir à quel point le sabbat tourne ultimement autour de Jésus lui-même. À quel point dans eux aussi, ils devaient venir à Jésus-Christ au lieu de résister à son enseignement. Et donc, il se sert de trois exemples de l'Ancien Testament pour marteler son point de trois endroits différents de l'Ancien Testament. En quelque sorte, il couvre l'ensemble de ces Écritures. Vous pensez que vous suivez les Écritures, dit-il? Ben, moi, je vais vous montrer à quel point vous ne comprenez rien. Premier point, ne vous inquiétez pas, on va aller un peu plus vite. Si vous dites, bon, ce n'est que maintenant, on commence le premier point. Robbie va m'arrêter à même donner, quoi qu'il en soit. Donc, d'abord, premier point, versets 3 et 4. « Venez à moi. » Il dit pourquoi? Car Jésus est le roi désigné par Dieu. Jésus ici les rappelle d'un événement qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 21. Là, David et ses hommes plaident avec le grand prêtre du tabernacle, Ahimelech, de donner à David et ses hommes du pain. Mais il n'y en a pas, sauf le pain consacré dans le tabernacle. Ce pain était réservé uniquement pour les prêtres. Mais, Jésus rappelle ici aux pharisiens, David et ses hommes manger ce pain-là. Car David, Ahimelech le savait, c'était le roi désigné par Dieu. En fuite à ce moment-là, oui, de Saül, mais toujours loin de Dieu, celui qui était désigné le roi de Dieu. Ce n'était pas donc permis formellement qu'il mange, mais il en fait, David et ses hommes, sans qu'il soit reproché pour cela, pardon, par le prêtre ou par la Bible dans son ensemble. La loi, donc, de Dieu, sert le projet de Dieu. Jésus donc dit que la loi est secondaire au roi qui vient de Dieu. La loi de Dieu, c'est le projet de Dieu qui tourne autour du roi désigné par Dieu. Donc, dit Jésus, vous légaliste, vous vous trompez de priorité. Vous ne voyez pas que la loi est asservie au roi. Et voici Jésus qui permet donc ses hommes à manger ses épis. Pourquoi ? Est-ce qu'ils étaient affamés, comme c'était le cas pour David et ses hommes ? Non. La justification que Jésus donne qu'ils peuvent manger tourne autour de l'identité de Jésus lui-même. Jésus se met implicitement ici, au moins au même pied d'égalité que David, le roi désigné par Dieu. Et bien sûr, il le fait. Car si nous avons lu l'évangile de Matthieu jusque-là, Jésus, c'est le Christ, le roi désigné par Dieu. Il est le fils de David, par excellence. Et donc, la loi est asservie au roi, le roi Jésus. Première chose, il dit. Deuxième, il affirme, versets 5 et 6, qu'il est plus grand que le temple. Il rappelle que lors du sabbat juif, il y avait quand même des personnes qui travaillaient dans l'Ancien Testament. Les prêtres, ils devaient se rendre au tabernacle pour officier, administrer les sacrifices, intercéder pour le peuple, enseigner le peuple au sujet de la volonté de Dieu. Et ils faisaient cela, précise notre texte, sans qu'ils se rendent coupables. Même si, en quelque sorte, ils ont profané la loi. Je pense qu'ultimement, ils n'ont pas profané la loi. C'était une exception donnée par la loi. Mais Jésus les fait réfléchir. Il dit, ne pensez pas que c'est tout à fait exclu. Dans cette situation-là, c'était possible. Dieu, quoi qu'il en soit, lui, il continue à travailler parce qu'il tient encore le monde dans son ensemble qui tourne. Dieu travaille, il n'a pas cessé ce travail-là. Le travail que Dieu a cessé de faire dans la Genèse, c'était son travail de création. Ça, il est entré dans son repos. Mais le travail continue dans certains cas pour Dieu et ici pour les prêtres. Et vous, les experts de la loi, fiers de votre propre obéissance à la loi, vous n'avez pas puisé les profondeurs de cette loi. Vous êtes nuls dans votre exégèse. La loi reconnaît ses exceptions. Et donc, du coup, de nouveau, il y a une exception lorsqu'il est question de Jésus. Or, je vous le dis, à la fin du verset, ici, il y a plus grand que le temple. Attends, Jésus dit qu'il y a plus grand que le temple. Sérieux? Le temple, à l'époque, le temple d'Hérode, c'était l'un des édifices les plus impressionnants du monde d'Antiquité. Mais réfléchissons, c'est ça ce que Jésus les pousse à faire. Le temple, c'était l'endroit où on pouvait être le plus proche de Dieu sur terre. C'était l'endroit où les péchés des hommes étaient ôtés par des sacrifices. C'était l'endroit où on enseignait la parole de Dieu pour faire comprendre la volonté de Dieu. Et Jésus est plus grand que le temple. Quand il effectue ce que le temple ne faisait rien qu'en miniature pendant un temps. Mais maintenant, Jésus, il fait ça pour du vrai. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Nous voulons nous approcher de Dieu aujourd'hui. Nous faisons cela à travers Jésus, non pas au temple. Il ôte le péché. Comment pas son sacrifice qui est l'accomplissement de tout autre sacrifice qui précédait. Son sacrifice définitif à la croix permet un pardon définitif pour nos péchés. Et lui, il proclame la parole de Dieu. Il est la révélation ultime de Dieu. Dieu fait chair. Le chemin vers Dieu, c'est Jésus. Il révèle la vérité qui vient de Dieu. Effectivement, Jésus est plus grand que le temple. Il dit, vous n'avez pas réfléchi à cela, vous, les pharisiens. Vous n'avez pas vu que même l'Ancien Testament nous pousse à Jésus-Christ. Jésus est là. Donc, bien sûr, ses disciples ont fait autrement. N'avez-vous rien compris? Troisième chose, car il dit à la fin du verset 7 et 8 qu'il est le maître du sabbat. Venez à moi, car lui, il est le maître du sabbat. De nouveau, Jésus les met au défi, car ils n'ont pas assimilé certains textes de l'Ancien Testament dans le cadre trop simpliste, leur système religieux simplement trop carré. Il cite le prophète Osée 6, verset 6, « Je veux la compassion et non le sacrifice. » Toute la loi, tout le système sacrificiel met en avant la compassion de Dieu, la bonté et la patience de Dieu, le pardon que nous pouvons obtenir de la part de Dieu. Mais eux, ils ignoraient cela. Ils adhèrent à ce système rigide, impersonnel. Effectuent le rite, obéissez à cette loi, et ensuite, je procure de bénédiction de la part de Dieu. Je suis dans le bon ascenseur. Non. En réalité, tout le rituel de l'Ancien Testament, y compris le sabbat, pointe le doigt vers une restauration d'une relation proche, profonde, entre l'homme et Dieu, telle que nous l'avons vu dans le jardin d'Éden. Un retour au repos pour lequel nous avons été créés. Et le Fils de l'homme, dit Jésus, c'est son titre préféré qu'il emploie dans les évangiles. L'homme qui porte toute l'autorité de Dieu, le roi désigné donc par Dieu, il est maître du sabbat. Ne le ratez pas, car le sabbat même nous pointe de doigt le maître du sabbat, Jésus. Et tout ce que nous recevons en lui. Le repos que Jésus donne, grâce à la nouvelle alliance scellée dans son sang, dont nous allons nous rappeler lorsque nous partageons le pain et le vin, c'est un repos qui nous réconcilie définitivement avec Dieu, qui donne la paix avec Dieu, qui garantit le repos sabbatique dans le jardin d'Éden, donné rien qu'un indice. Ça, chers amis, si vous êtes juste là en visite parmi nous, c'est une affirmation de sa divinité. Bien sûr, il dit qu'il est le maître du sabbat. Le sabbat, c'était la chose la plus ancienne de tout le système de l'Ancien Testament. Juste après la création, Dieu entre dans son sabbat, nous dit le texte. Le reste du développement du sabbat de l'Ancien Testament dépend de cela. Et maintenant, Jésus, il dit, je suis maître de ce système-là. C'est une affirmation de sa divinité, qu'il est le Seigneur, qu'il a donc l'autorité, parce qu'il accomplit tout dans ce sabbat préfiguré. Donc le défi que Jésus lance aux gens religieux, c'est un défi, car ils sont tellement ancrés dans leur système pour obtenir la faveur avec Dieu, pour procurer le pardon auprès de Dieu, afin d'être assurés de leur avenir avec Dieu. Mais Jésus leur dit, il faut abandonner, vous savez, ce système de religion. Et il faut, à la place, venir à Jésus-Christ. Ils ont l'air un peu ridicules. C'est eux qui sont censés à connaître le message de l'Ancien Testament. Ils croyaient être de bons conducteurs pour le peuple de Dieu. C'est comme si Jésus, il arrive sur scène et c'est le Lewis Hamilton du domaine spirituel. Et il s'approche de nous, les mauvais conducteurs, avec son Mercedes. Vous croyez savoir conduire? Il nous demande. On va faire 3 tours de Bruxelles. Vous êtes prêts? Okay. Venez à moi car je suis le roi désigné par Dieu. Premier tour. Ouh, c'était vite ça. Venez à moi car je suis plus grand que le temple. Ouh, j'avais pas compris ça. Venez à moi car je suis le maître du sabbat. J'avais pas compris ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chapitre 11, verset 28. Je vous donnerai du repos. Ce qui implique que nous laissons de côté, chers amis, nos pratiques religieuses, nos béquilles spirituelles, afin de bénéficier de ce repos-là. Mais combien nous avons du mal, toutefois, à nous débarrasser de ces béquilles. Car ce sont des choses qui nous réconfortent, la religion à l'extérieur. Ces choses nous réconfortent parfois que nous appartenons, pour finir, que nous faisons partie des branchés dans la société. Imaginons qu'on entre dans la mosquée ici à Bruxelles, en centre-ville, près du parc royal, et on voit tout un tas de peuple en train de suivre les règles. Il faut enlever les chaussures, il faut prier tous dans la même direction, il faut acheter lorsqu'on rentre chez nous de la viande qui est halal. Et Jésus lui dit non, non, non. Non, non, cessez tout cela. Cessez tout cela. Il faut venir à moi. Il faut venir à moi. Où on se retrouve à Jérusalem, en vacances, et on voit des sacrifices toujours, des obéissances du sabbat, des prières dites au mur occidental, avec des cérémonies de circoncision, les bar mitzvah, et ainsi de suite. Et Jésus, il dit, non, non, non. Non, 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 vous vous trompez, mes amis. Il faut venir simplement à moi. Et qu'en est-il des pratiques religieuses bien établies au sein du christianisme même, avec parfois ces rites, comme le baptême pour des nourrissons, suivi par la première communion, les sacrifices qui continuent à être offerts sur l'autel? J'ai envie de vous dire que Jésus nous dit, non, 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 vous vous trompez. Il faut venir simplement à moi. Au lieu de se fier à un système religieux quelconque pour notre assurance devant Dieu, il faut se fier à Jésus-Christ seul. Mais cela s'applique également à ceux qui se croient supérieurs, n'est-ce pas, aujourd'hui, car leur pratique écolo les permet de croire que c'est eux les vrais branchés de notre société. Ceux qui se croient branchés par leur soutien pour une cause ou une autre, qu'ils ont participé à une telle ou une telle manifestation, etc. Non, non, non. Il faut simplement venir à moi, dit Jésus-Christ. N'avez-vous rien lu de l'Ancien Testament? N'avez-vous pas compris que tout ça nous mène à Jésus? Seul, c'est lui qui donne le repos pour notre âme. Mais cela se révèle comme étant trop dur, tellement nous sommes attachés à nos pratiques religieuses. Et juste en terminant, si Roby le permet, nous allons voir ce deuxième point, l'hypocrisie exposée des personnes, des gens religieux qui refusent de venir à Jésus. L'hypocrisie des gens religieux qui refusent de venir à Jésus exposée. Au verset 9, Jésus se trouve à une synagogue, celle des pharisiens, on suppose, il dit la leur. Donc, c'est comme s'ils l'ont invité exprès, car ils savent qu'il y a un homme d'une main paralysée qui s'y trouve. Et ils demandent à Jésus, est-il permis de faire une guérison un jour de sabbat? Mais le texte précise l'intention derrière. C'était afin de l'accuser. Et la réponse expose la hypocrisie. car le principe pour eux, c'était d'aider le jour du sabbat uniquement si la vie de la personne était en danger. À ce moment-là, pour eux, c'était permissible. Ce n'est pas le cas pour cet homme. Évidemment, il est là, malade, depuis un long moment. Il peut attendre encore un autre jour. Il peut attendre dimanche. Mais Jésus retourne la question sur eux en leur demandant qui ne sauvera pas leur animal dans cet instant, un mouton qui tombe dans une fosse le jour du sabbat. Même si la vie de l'animal n'est pas en danger non plus, parce que l'animal peut rester là un jour. Il dit, vous laissez votre animal comme ça? Il met son doigt sur le problème, parce que apparemment personne n'hésitera à sauver l'animal. Et du coup, Jésus saisit l'opportunité pour dire, verset 12, « Or, un être humain vaut plus qu'un mouton. » Combien plus? Oui, ça c'est vrai, chers amis. Mais en disant cela, c'est pour exposer leur hypocrisie. Parce que bien sûr, il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Mais les pharisiens, verset 14, que font-ils? Après avoir vu le miracle opéré par Jésus, verset 13, ils sortent et que font-ils? Ils tiennent conseil contre lui sur les moyens de le faire disparaître. Que font-ils donc le jour du sabbat? Le mal. Et ils critiquent Jésus pour avoir fait du bien. C'est de l'opposition totale. Car Jésus, comprenons bien, il menace ceux qui sont ancrés à leur système religieux. Jésus met en danger les systèmes religieux. Il dit non, non, non. Maintenant, il faut venir à moi. Et les gens disent, mais si je viens à toi, alors tout ce système s'écroule et j'ai plus d'identité, j'ai plus de place. Et Jésus dit oui, parce que tout cela pointe le doigt vers moi. Donc, ayez le courage. Mettons à terme notre pratique religieuse pour chercher l'approbation avec Dieu et venons uniquement à Jésus. Ben, ça les gêne. Et donc, ils préfèrent se débarrasser de Jésus. Et donc, ils se révèlent justement comme étant ceux qui enfreignent ultimement la loi de Dieu. Et Jésus continue à gêner les religieux, mes amis. Il ne se contente pas d'être un religieux parmi d'autres. Non, il offre ce que lui, il offre, met fin à toute tentative religieuse de procurer la faveur de Dieu. Le seul moyen de trouver Dieu, bonne nouvelle, c'est à travers le roi serviteur, Jésus-Christ. Lui qui nous fait du bien, qui nous fait miséricorde, qui est compatissant à notre égard. Et ça, c'est immérité. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est par sa grâce. Venez donc à lui. Oui, il faut suivre ses instructions, mais son fardeau est léger. La religion nous dit que nous devons faire certaines choses pour avoir notre assurance d'appartenir à Dieu, d'avoir procuré le pardon et la faveur de Dieu. Mais Jésus nous dit que nous devons simplement nous approcher de lui. C'est un message tellement révolutionnaire, vous savez. Je ne sais pas si vous êtes actuellement sur le fardeau de chercher votre propre assurance dans votre propre mérite religieux. J'ai entendu une mère chrétienne de plusieurs enfants qui disait ceci à propos du défi d'élever des enfants dans un foyer chrétien, dans une société actuelle occidentale. Et il disait qu'en dehors de la maison, la pression d'appartenir aux autres, à différents groupes, est super grande. Il y a une peur, lorsqu'on est jeune, peut-être plus fort, d'être rejeté par les autres, d'être en dehors du groupe. Et elle disait que nous avons la joie de pouvoir dire à nos enfants, le Seigneur Jésus, c'est le pire de chacun d'entre vous. Vous savez cela. Le Seigneur Jésus, c'est le pire de chacun d'entre vous. Et malgré cela, il vous aime. Malgré cela, il dit, venez à moi, vous qui sont fatigués. N'est-ce pas magnifique ce que nous avons en Jésus-Christ? Donc ne confondons pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec un simple rite religieux. Est-ce que vous partez en vacances, chers amis? Si vous partez en vacances, c'est le moment de penser à deux repos. Peut-être que vous ne partez pas en vacances. Et vous dites, moi, je n'aurai pas de repos. Que nous partions en vacances, que nous restions, que nous continuions à travailler, sachant ensemble que le vrai repos ultime se trouve auprès de Jésus-Christ. Prions ensemble. Quel privilège, Seigneur, d'avoir Jésus-Christ comme notre Seigneur. Quel privilège de connaître le repos que lui nous donne, ce pardon définitif de nos péchés, cette espérance quant à notre destin ultime de pouvoir participer à ton paradis, ton repos ultime, ton préfiguré le sabbat, et cela uniquement parce que Jésus-Christ, lui, a effectué le sacrifice qui nous a fallu à la croix. Merci, Seigneur, pour la joie de connaître Jésus-Christ. Et donne-nous, Seigneur, d'être attentif, de ne pas faire de notre foi une autre religion. Nous essayons de monter quelques étapes pour gagner ta faveur. Merci que nous pouvons simplement, par la foi, venir à Jésus-Christ et recevoir du repos pour notre âme. Nous te louons au nom de Jésus. Amen.
Quel sauveur merveilleux nous avons, nous donne pas le fardeau.